Bienvenue ce matin pour ce culte un peu particulier qui vient notamment clôturer tout ce que nous avons pu vivre et partager durant ce festival de BD, et particulièrement dans le programme de la bande dessinée chrétienne. Ce matin, vous l'imaginez, si vous étiez là les années d'avant aussi, vous avez l'habitude, le culte sera différent de ce que nous vivons habituellement. L'association de BD protestante a réalisé cette année une expo sur deux ouvrages, Mon traître et Retour à Quilibex. Des BD qui ne sont pas chrétiennes, mais qui apportent un questionnement sur ce qu'est l'amitié, sur ce qu'est une relation humaine qui soit bonne et belle, sur ce que la trahison peut infliger à une relation. Et la question du pardon est laissée comme en suspens. Ce matin, nous avons à cœur de revenir sur ces questionnements, revenir sur cette relation, notamment entre les deux personnages que sont Antoine et Tyrone, qui sont au cœur de ces deux ouvrages. Mais nous voulons cette fois chercher dans la parole de Dieu ce qui pourra éclairer cette question du pardon laissée en suspens. Nous allons d'abord avoir un temps où les personnages de ces livres vont nous parler de leur relation, nous parler de cette trahison. Ce sera des textes narratifs qui ont été inventés, rédigés par Jean-Philippe. Puis nous écouterons des passages bibliques qui entrent en résonance avec ces textes. Et nous pourrons alors exprimer à Dieu soit notre adoration, soit notre reconnaissance, soit notre repentance peut-être, par des cantiques que nous chanterons ensemble. Texte narratif, lecture biblique, cantique. C'est cette alternance qui va venir rythmer la première partie de ce culte. Puis nous recevrons une prédication qui sera illustrée en direct par Priscille de Prince, qui est une artiste du collectif chrétien Majestar. Elle viendra illustrer la prédication dans un travail abstrait autour de la couleur. Un culte un peu différent, mais pour lequel nous devons disposer nos cœurs à écouter ce que Dieu veut nous dire ce matin. Alors j'aimerais vous inviter tout simplement à prier pour commencer ce culte. Seigneur notre Dieu, ce matin nous voulons orienter notre cœur, nos pensées vers toi, vers qui tu es, vers ta personne, vers ton œuvre, vers ta volonté. Nous vivons tous dans nos semaines, dans nos vies, dans nos familles, au travail, avec les amis, des relations qui sont complexes, remplies de belles et bonnes choses, mais pas uniquement. Et Seigneur, ce matin, toi, tu veux venir poser un regard sur nos vies. Ta parole veut nous orienter, même dans les relations que nous vivons. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour nous tourner vers toi, pour t'adorer, pour te louer, te remercier, mais aussi pour nous laisser enseigner, touché au fond du cœur parce que toi, tu as à nous dire. Alors Seigneur, bénis ce temps de culte ce matin, bénis-nous, assemblée composée de croyants de diverses confessions, de diverses communautés réunies ce matin ensemble autour de toi et de ta parole. Seigneur, merci. Merci de t'être créé un peuple auquel tu nous as tous intégrés en nous adoptant comme tes enfants. Merci Père, pour tant d'amour pour nous. En ton nom, Jésus-Christ. Amen.
Comment vous expliquer ? Comment moi, Antoine, jeune luthier parisien, pourrais-je vous présenter Tyrone Mehan, le grand Tyrone Mehan ? Comment vous présenter mon ami ? Je ne peux pas vous raconter ici comment s'est passée notre première rencontre, mais ce soir-là, dans le pub, je ne sais pas ce qui m'a le plus touché. Était-ce cette manière que Tyrone a d'aborder les gens, de leur parler directement, de dire simplement les choses? Ou étais-je marqué par ce que m'en avaient dit Jim et Cathy, mes amis irlandais? Et cela avait duré une grande partie de la nuit. Tyrone, c'est une présence, sans beaucoup de paroles, mais des mots justes qui font autorité. Tyrone, c'est une personnalité, mais sans en rajouter, pas la peine. Mais pour moi, Tyrone, c'est surtout un rire formidable, sans retenue. Ce rire que j'ai aimé, j'ai essayé de me l'approprier, mais sans y arriver. Et cette façon qu'il avait de m'appeler fils, dès le lendemain de notre première rencontre. Avec lui, je me suis senti rapidement accueilli, intégré. Et je me suis attaché à lui autant qu'à Cathy et à Jim. À travers eux, j'ai adopté l'Irlande comme mon second pays. Je me suis attaché à ces personnes, à leur lutte, et j'ai voulu les rejoindre, même dans leur combat. Mais Tyrone me l'a interdit, enfin surtout dans un premier temps. De toute son autorité, de tout son amour, il m'en a empêché. Je n'étais pas et je ne serai pas irlandais. Il voulait sans doute me protéger. Mais qu'est-ce que j'ai été fier quelques années plus tard, quand il a accepté que je l'aide dans son combat. Là, je me suis senti adopté. D'accord, c'était de manière très discrète, un secret entre lui et moi. Cette complicité, je crois, a renforcé nos liens. Je me souviens de ce voyage sur sa terre natale pour aller acheter ma casquette. Ce cadeau qu'il m'a offert alors qu'il était au chômage. Je me souviens de ces deux jours passés ensemble. Tyrone avait tout prévu, une tente pour deux, des duvets, un réchaud, et lui et moi, juste nous. Et là, au bord du lac, il m'a raconté son pays, en ouvrant son bras pour me prendre par l'épaule, pour me serrer en frère, comme il le faisait lorsque j'allais mal, que j'avais peur, quand je doutais. Oui, là, j'étais fier, fier de sa confiance, fier d'être son ami. Je me souviens de ce jour de fête, le 31 août 1994, ce jour de la fin des combats. Dans la foule, j'étais à côté de Tyrone, brandissant le drapeau. À côté de moi, un jeune homme regardait mon ami. Il m'a demandé si c'était Tyrone Mehan, le grand, le fameux, le vieux prisonnier. J'ai dit que oui, que c'était bien lui. Le jeune homme m'a tendu la main, je l'ai prise. Nous nous sommes félicités d'être là avec lui, en ce jour. Ah oui, j'étais fier de connaître Tyrone Mehan, d'être son ami.
La première fois que j'ai vu le petit Français, c'était dans un pub, la veille de Pâques. Il était en compagnie de Jim et Cathy. C'était facile de deviner. On reconnaît les Français de loin. Ils bougent leurs lèvres supérieures quand ils parlent. Mais deux choses m'ont marqué chez Antoine. D'abord, c'est cette curiosité, cette volonté d'être avec nous, de partager nos manifs, de s'imprégner de l'Irlande. Il m'était facile de lui montrer en partie notre lutte quotidienne, de le surprendre. Il était avide de notre culture. On l'a vu petit à petit s'adapter, se transformer en Irlandais. Il s'est habillé comme un Irlandais. Il s'est mis à cracher comme un Irlandais. À boire de la Guinness comme un Irlandais, alors qu'au début, il attendait d'avoir fini sa pinte pour en commander une autre. Petit Français. La seconde s'est passée un soir chez Jim et Cathy, chez qui il logeait au début quand il venait nous voir. Ce soir-là, nous avons échangé quelques nouvelles, quelques histoires et des souvenirs en buvant des bières. Et puis après, certains d'entre nous ont entonné des chants gaéliques. Antoine avait amené son violon, comme toujours. Alors, je l'ai invité à jouer. Il a sorti son violon dans le silence et il s'est mis à jouer. Il a joué en fermant les yeux. Il a joué Hockey Slide. Oh, tout n'était pas forcément juste. Mais il aurait aussi pu jouer un hymne de chez lui. Non, ce soir-là, il a joué au violon en fermant les yeux, ce chant traditionnel irlandais, comme si c'était une part de lui-même. Il avait songé à venir vivre à Belfast avec ce rêve fou, devenir encore plus, plus encore irlandais, de s'engager, d'aider le combat républicain. Mais ça, je ne pouvais pas le concevoir, parce qu'il était, qu'il est et qu'il sera et restera un petit luthier français, un gars bien, un ami, et ne devait jamais oublier qu'il devait rester qui il était. C'est cela que nous avions besoin, moi, Jim, Cathy, Sheila et les autres. Oui, oui, je peux vous dire que j'ai profondément aimé ce gamin. Je t'aime, fils.
Un Corinthiens, chapitre 13. L'amour. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour.
Évangile de Jean, chapitre 15. Je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant, vous donc, dans mon amour, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Et puis, je me souviens. Je me souviens de ce vendredi de décembre 2006. J'étais à Paris. L'annonce à la radio d'un traître en Irlande du Nord était vague. Mais quand j'ai lu le journal, le monde s'est écroulé. Ce grand homme qui pour moi représentait l'Irlande, ce héros que j'admirais, cet ami que j'aimais profondément, Tyrone était ce traître. Depuis 25 ans, il trahissait. Il trahissait son combat, il trahissait la République, il trahissait ses amis et Sheila et Jack, il trahissait notre amitié. Pourquoi ? Pourquoi ? Combien de fois il m'avait appelé fils et j'y croyais. Comme ce jour où la paix retrouvée, nous avions visité Long Kesh, la prison où avaient séjourné Bobby Sands, Tyrone et Jack et tant d'autres combattants républicains. J'ai fait cette visite avec Tyrone avant que la prison ne soit détruite. À la sortie, il m'a dit « Écoute bien ce que je vais te dire, petit Français. Écoute bien et ne dis rien. Je t'aime, fils. » Et j'ai répondu « Moi aussi. » Il a fermé les yeux, secoué la tête et a rajouté « Ne dis rien, s'il te plaît. Écoute. » Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je t'aime. » Finalement, qu'est-ce que cela voulait bien dire ? Après l'annonce de sa trahison, j'ai eu l'occasion de le revoir une dernière fois, chez lui à Killybegs. J'avais tant de questions à lui poser. J'aurais aimé savoir pourquoi ? Pourquoi as-tu fait cela, Tyrone Mehan ? Pourquoi fait-on cela, Tyrone Mehan ? Il vient d'où ce poison ? De la tête, du cœur, du ventre ? C'est une bataille ou un renoncement ? C'est quoi trahir Tyrone Mehan ? Ça fait du bien ou ça fait du mal ? Ça pourrait arriver à n'importe qui, à toi comme à moi ? Mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. Je ne lui ai posé qu'une seule question. Notre amitié était-elle vraie ? Il ne m'a pas répondu. Enfin, non. Il m'a répondu qu'il n'avait pas de réponse dans une dernière embrassade. Je ne l'ai plus revu.
Oui. Oui, j'ai trahi. J'ai trahi mon combat. J'ai trahi mes amis. J'ai trahi ma femme et mon fils. Oui, j'ai trahi. Je n'ai pas eu le choix. Et vous aimeriez certainement savoir pourquoi. Vraiment ? Parce que personne n'a essayé de comprendre pourquoi. Même pas Sheila, ma femme, qui m'a demandé de me taire parce qu'elle ne voulait pas que je mente. Même Jack, mon fils, m'a rejeté. Personne n'a essayé de comprendre. Sauf peut-être Josh, mon copain d'enfance et curé. Mais je ne lui ai rien dit. Je ne dois rien à personne. Pas même à toi, Tony, mon ami, mon fils. J'ai fait ce que j'ai fait et cela m'appartient. Personne ne naît profondément, parfaitement honnête. On a tous un côté planqué dans notre ventre. Le traître, c'est parfois un gars formidable qui renonce. Et chacun doit se battre avec ce côté caché, cette facette que l'on cache aux autres. Sinon, tu vas devenir comme moi et tu vas mourir comme moi. Parce que je vais mourir. Oui, oui, j'ai trahi. J'ai trahi parce que j'ai été piégé. Piégé par notre histoire, piégé par la guerre, piégé par mes amis, piégé par mes adversaires. Je les déteste, les Brits, non pas parce qu'ils nous ont combattus, je leur en veux pour ce qu'ils ont fait de nous, parce qu'ils nous ont obligés à tricher, à mentir et à tuer. Je déteste l'homme qu'ils ont fait de moi. Au début, j'ai espéré que cela prendrait fin rapidement, qu'ils m'oublieraient. Ils me tenaient et ne m'ont pas lâché. J'ai espéré que je pourrais protéger les amis. Je vous assure, je voulais protéger Jim. Je vous assure. Et j'ai été trahi. J'ai espéré pouvoir agir pour la paix, abréger cette fichue guerre. Et lorsque la paix a enfin été là, j'ai été trahi, lâché. Et mon ami Antoine, le petit Français, je me suis servi de lui. Quand je lui ai dit qu'il continuerait de servir la République irlandaise, à ce moment-là, son regard a été l'un des plus beaux portés sur moi. Lorsque Tony me regardait, je m'aimais dans ce qu'il croyait de moi. Pourtant, lors de notre dernière rencontre, je n'ai pas pu répondre à ses questions. J'aurais dû essayer, lui dire qui il était pour moi, à la fois l'étranger et mon peuple, qu'il avait tant et tant aimé notre terre qu'il en était. Était-ce dans l'amitié? Je n'avais pas de réponse. Oui, lui aussi, je l'ai trahi. J'ai trahi cet amour-là. Quelle autre issue que la mort m'est-elle possible?
Évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli.
Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette, devant ceux qui la fondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis.
Au commencement, Dieu existait. Dieu est. C'est ce que nous dit le début de l'évangile de Jean que nous avons lu. Au commencement, Dieu est. Mais il n'est pas seul. Son existence n'est pas solitaire. Parce que si Dieu est unique, ce début de l'évangile de Jean nous ouvre à ce qui reste un mystère pour nous. Dieu est un, unique, mais il est également trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tous trois identiques en tout point, tous trois dans une relation éternelle. Au commencement, Dieu existe. Et de toute éternité, il vit en relation, une relation parfaite d'amour et de justice. Parce que Dieu est parfait dans son amour et parfait dans sa justice. Et par amour, il a voulu partager avec d'autres toute la beauté de cette relation. Dieu aurait très bien pu rester pour l'éternité dans cette relation parfaite sans rien ni changer. Mais son amour est tellement grand qu'il a voulu partager cette relation. Alors Dieu nous a créés. Il a créé les humains, hommes et femmes, avant tout pour nous faire goûter au bonheur immense que peut procurer une relation d'amour parfaite, sans tâche, sans maladresse, sans injustice. Une relation parfaite, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter, ce que ça peut être de vivre une telle relation. Une relation parfaite d'amour et de justice. Je pense qu'on en rêve tous. Nous passons peut-être notre vie à chercher une personne qui puisse nous aimer pleinement, pour qui nous sommes. Une personne qui sera toujours compréhensive, qui ne nous jugera pas, qui ne nous abandonnera pas, qui ne nous trahira pas, qui ne nous fera pas de mal. On en rêve, mais on a du mal à imaginer ce que ça peut être. On a du mal à l'imaginer parce que pour vivre une relation parfaite, il faudrait deux personnes parfaites. Et nous le savons, aucun être humain n'est parfait. Dieu est parfait, parfait dans son amour, parfait dans sa justice, et il nous a créés pour qu'on puisse entrer dans sa relation parfaite. Malheureusement, les humains ont égratigné. Ils ont abîmé, ils ont brisé, rejeté la relation parfaite que Dieu nous proposait. Ils ont décidé de se passer de Dieu pour vivre. Je pense que plus on aime une personne, plus la trahison fait mal. C'est vrai, si une personne me laisse indifférent et qu'elle décide de ne plus m'adresser la parole, bon, c'est dommage, mais perso, je m'en fiche un peu. Mais quand c'est un ami qui vous trahit, un ami proche, aïe. Quand c'est un membre de votre famille, votre frère, votre sœur, lorsque des enfants sont injustement traités par leurs parents, ou lorsque des parents voient leurs enfants les mépriser. Pire encore, lorsque c'est votre conjoint qui vous trahit, celui ou celle qui a pourtant promis devant témoin de vous rester fidèle à vous et aucun ou aucune autre. Là, la trahison fait mal, terriblement mal. Plus on aime, plus la trahison sera douloureuse, déchirante, destructrice. Dieu a créé et aimé les humains d'un amour parfait, infini. Alors imaginez l'ampleur tout aussi infinie de sa douleur, de sa souffrance, de sa tristesse. Après la trahison de l'humanité. Plus on aime, plus la trahison fait mal. Et Dieu aime tellement les humains qu'on ne peut même pas imaginer un amour pareil. Et de la même manière, on ne peut pas imaginer à quel point la trahison de l'humanité peut le faire souffrir. Et en toute logique, ça devrait s'arrêter là. J'ai été injuste envers un proche. Il ou elle a souffert. Notre relation est fragilisée, voire même brisée. Et c'est tout. C'est fini. Ça devrait être fini. Parce qu'on ne peut pas réparer le passé. On ne peut pas annuler nos actes. On ne peut donc pas réparer une relation ou une confiance brisée. Mais Dieu n'a pas voulu nous laisser dans cet état. Il a voulu nous apporter une solution à la trahison, quelque chose qui permette à l'amour et à la justice de s'exprimer tout à nouveau. Et cette solution, c'est le pardon. Et je pense que bien souvent, on comprend très mal ce qu'est le pardon. Et il y a deux choses dont je voudrais vous parler. On a l'impression que pardonner, c'est oublier le mal qu'on a pu nous faire. On pense parfois que pardonner, c'est en quelque sorte revenir en arrière. On revient avant la blessure, on revient avant la trahison. C'est fini, on n'en parle plus. Mais c'est faux. Le pardon n'est pas aussi simple, ni aussi lumineux, ni aussi brillant. C'est faux. C'est une compréhension du pardon qui vient caresser notre orgueil, qui veut aseptiser la gravité du mal qui a été commis. Le pardon de Dieu, le pardon dont nous parle la Bible, c'est avant tout un pardon qui reconnaît la pleine et entière gravité de l'injustice. Il y a une formule de politesse que j'ai du mal à supporter. Lorsqu'on fait un truc de mal à une personne, qu'on en prend conscience, qu'on s'en veut, et qu'on vient faire la démarche difficile de demander pardon, bien souvent, quelle est la réponse de l'autre ? Oh, t'en fais pas, c'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave ? C'est pas grave ? Mais si, justement, c'est grave. Ce que je t'ai fait est grave. Sinon, j'aurais pas besoin de venir te demander pardon. S'il y a besoin de pardon, c'est avant tout parce qu'il y a injustice. Et le pardon que Dieu propose aux humains, le pardon qu'il nous offre et qu'il nous commande ensuite de pratiquer entre nous, c'est avant toute chose un pardon qui vient reconnaître la pleine et entière gravité du mal qui a été commis. Une deuxième chose qu'on pense parfois au sujet du pardon, c'est que ça ne coûte rien, que c'est un acte simple, et on l'enseigne parfois comme ça aux enfants. Non mais tu sais, il te suffit de demander pardon et puis voilà. Oui, eh bien, c'est justement le problème. Il suffit de demander pardon. Mais le pardon, ça nous coûte. Et ça coûte cher. Pour celui qui a fait le mal, venir demander pardon demande du courage, de l'humilité. Ça oblige à briser notre orgueil, notre fierté. Ça nous oblige à admettre, à avouer les choses les plus mauvaises qu'il y a en nous. Et soyons honnêtes, personne n'aime se confronter à ce qu'il y a de mauvais en lui. Demander pardon, ça coûte, et ça coûte cher. Ça coûte également à celui qui accorde son pardon, celui qui a subi l'injustice, celui ou celle qui est la victime et qui doit renoncer à sa douleur, renoncer à sa colère, renoncer à la vengeance peut-être. Tout ça pour offrir le pardon à un ou une coupable. Accorder son pardon, ça coûte. Et ça coûte cher. L'exemple le plus flagrant de ce que coûte le pardon, c'est l'exemple du Christ. Notre trahison envers Dieu dépasse en gravité tout ce que nous avons pu vivre. La douleur de Dieu dépasse infiniment la nôtre. Et le prix de notre pardon dépasse également de très loin ce que nos pardons mutuels peuvent nous coûter. La Bible nous dit que notre trahison envers Dieu est tellement grave que nous devrions la payer de notre vie et même elle n'y suffirait pas. Voilà le prix que vaut notre trahison. Voilà ce qui serait juste. Mais Dieu n'est pas que parfait dans sa justice. Il est aussi infini dans son amour. Et il voulait tellement pardonner aux humains que ce prix, il ne nous l'a pas demandé, il ne l'a pas réclamé, il l'a offert. C'est sa vie à lui qu'il a donnée pour le pardon de nos fautes. En Jésus-Christ, Dieu est devenu un humain pour vivre une vie parfaite, sans le mal, et pour que cette vie parfaite soit donnée à la place de nos vies imparfaites. On demande ou on offre le pardon, parce que l'injustice, c'est grave, et le pardon, ça coûte, et ça coûte cher. Mais alors, pourquoi rechercher le pardon? Si ça coûte tellement cher, pourquoi le vivre? Pourquoi le désirer? Eh bien parce que le pardon est le seul moyen, je dis bien le seul, vous pouvez chercher, il n'y en a pas d'autre. Le pardon est le seul moyen pour pouvoir commencer à restaurer une relation brisée, pour pouvoir revenir à l'amour qui a été perdu. Parce que le pardon est avant tout un acte d'amour. Celui qui demande pardon doit le faire avant tout par amour pour la victime. Je t'ai fait du mal et je regrette tellement la douleur que je t'ai causée. Je t'aime et je ne veux pas que tu souffres. Je te demande pardon. Celui qui offre son pardon doit le faire également avant tout par amour pour le coupable. J'ai mal, tu m'as fait très mal, et tu ne peux rien faire face à cette culpabilité. Mais je t'aime, et malgré ma douleur, je ne veux pas que tu restes dans cet état, que tu restes coupable envers moi. Je veux t'aider à sortir de ta culpabilité. Alors je t'offre mon pardon. Le pardon est un acte qui reconnaît la culpabilité, qui reconnaît la souffrance, mais c'est surtout un acte d'amour par lequel nous voulons aider l'autre à sortir soit de sa souffrance, soit de sa culpabilité. Rien ne nous oblige à payer le prix de cet acte. C'est simplement l'amour de l'autre qui nous y pousse. C'est exactement ce qui a motivé Dieu dans son œuvre de pardon en Christ, l'amour qu'il nous porte. Notre trahison est tellement grave, la souffrance de Dieu tellement grande, que nous ne pouvons rien faire pour réparer ou apaiser cela. Les humains sont impuissants face à leur culpabilité. Et il n'y a que l'amour infini de Dieu qui pouvait le pousser à payer à notre place un prix que nous étions incapables de payer. La croix est un acte dramatique, mais c'est avant tout un acte d'amour, une œuvre de pardon, un pardon qui est offert à tous ceux qui veulent bien reconnaître la gravité de leurs fautes et qui s'en veulent de la souffrance qu'ils ont causée à Dieu. La trahison brise une relation, brise la confiance, et une immense preuve d'amour est nécessaire pour permettre à la relation de renaître et de grandir à nouveau petit à petit. Le pardon, c'est cette œuvre immense d'amour, et aucun autre cadeau, aucune autre parole, aucun autre moyen ne peut permettre de ramener à la vie une relation perdue. C'est parce que Dieu le Père nous a tant aimés, que Dieu le Fils est venu payer à notre place ce que coûte notre pardon, afin que Dieu le Saint-Esprit puisse faire naître et grandir en nous tout à nouveau la vie que Dieu veut nous offrir en abondance. Une vie qui provient de la relation parfaite qu'il nous offre. Une vie que nous recevons alors pour l'éternité. Et nous lisons en Jean 3. Versets 16 à 18. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Dieu nous offre son pardon, sans rien demander d'autre que de l'accepter avec repentance et humilité. Et même si ça vous coûte, vous ne savez pas jusqu'à quand vous aurez l'occasion d'accepter ce pardon. Alors n'attendez pas. Acceptez le Christ comme votre sauveur. Faites cette demande de pardon envers lui. Et revenez enfin à cette relation parfaite avec Dieu, par laquelle il veut nous offrir une vie qui soit éternelle. Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui, un jour, m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant, je vois l'amour, je vois la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Ce sont les paroles du cantique que j'aimerais vous inviter à chanter ensemble à la suite de ce message. Et nous pouvons nous lever pour ce chant.
Je n'ai rien à moi.
Dieu nous offre son pardon. Il nous offre tout à nouveau la relation parfaite qu'il a toujours voulu partager avec nous. Et dans cette relation, Dieu fait jaillir en nous par son esprit une vie qu'il nous promet jusque dans l'éternité, dans sa présence. C'est plutôt ce que j'appellerais une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour laquelle nous pouvons dire merci à Dieu du fond de notre cœur. Alors nous vous proposons maintenant un temps de reconnaissance envers Dieu. Ce culte a été plutôt méditatif peut-être. Maintenant, nous vous proposons un temps de reconnaissance, de remerciement. Nous allons concrétiser ce temps de reconnaissance par deux cantiques que nous allons chanter ensemble, mais également, nous pouvons le faire par un geste, en participant à l'offrande en signe de remerciement à Dieu. Une offrande dont le fruit cette année, c'est ce qui a été décidé entre nos deux communautés de l'Église libre et de l'Église protestante unie. Le fruit sera reversé à l'APVBD, l'association protestante de bande dessinée, pour les soutenir dans leur travail de témoignage par le biais des expositions qu'ils organisent chaque année. Ce moment d'offrande est libre, il doit le rester, on l'impose à personne, ce doit être un geste de reconnaissance s'il est fait, pas de contrainte ou avec le regard du voisin. Surtout, sentez-vous libre et je vous invite à vous lever pour ce temps de reconnaissance.
Aujourd'hui, notre pain de ce jour.
Alors nous arrivons à la fin de ce temps de culte ensemble. Et on finit. Ce temps de culte va se terminer par un moment d'annonce au sujet notamment de ce qui reste aussi dans le festival de la bande dessinée chrétienne peut-être et aussi de nos deux communautés. Mais on va en dire peut-être que quelques-unes. Alors c'est le dernier jour aujourd'hui de l'exposition rue de Belat dans le temple, dans le centre-ville, pour l'exposition de Montraître à retour à Quilibex, qui vous en apprendra plus sur les deux personnages dont vous avez entendu parler ce matin, Tony et Antoine. Vendredi à 19h30, le parcours Alpha organisé par notre communauté qui continue avec la 8e soirée sur le thème difficile, comment résister au mal. Donc voilà, on demande aussi la prière de tout le monde pour les personnes, les participants à ce parcours qui découvrent la foi chrétienne et qui vont notamment réfléchir sur ce sujet. Samedi à 15h30, un moment de réjouissance avec le mariage de Chantal et d'Edgar ici même dans nos locaux. Voilà, donc on se réjouit encore de toujours plus. Voilà, on n'a pas fini. Donc ça sera samedi à 15h30 et ça sera suivi par un vin d'honneur. Et dimanche prochain, donc, notre culte à 10h45. On rappelle aussi qu'il y a un parcours torrent de vie qui va commencer, qui est ouvert vraiment à tous les croyants de la ville d'Angoulême. Torrent de vie est une association chrétienne au service de toutes les églises. Donc on les reçoit dans ces locaux ici, mais ce n'est pas nous qui organisons le parcours, on ne fait qu'accueillir. Et Torrent de vie est un parcours qui s'adresse aux croyants, à ceux qui croient en Christ, mais qui ont besoin d'une certaine restauration dans leur vie, vis-à-vis de blessures peut-être passées ou présentes. Quelles que soient ces blessures, quelle que soit leur sorte, qu'elles soient des addictions, des maltraitances, des difficultés d'estime de soi. Et bien ce parcours Torrent de vie commencera début mars, si je ne me trompe pas, le 2 mars, et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er février. Bien, j'aimerais vous laisser simplement comme bénédiction quelques paroles de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Nous terminerons ce culte par cette bénédiction-là et nous pouvons nous lever pour la bénédiction finale. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion que nous vivons par son Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Amen. Bien, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine à chacun et chacune d'entre vous.